Bonjour, bien-aimés. Je salue aussi nos frères et sœurs qui sont en Zoom avec nous. Que Dieu nous bénisse. Et à travers sa parole, qu'il nous relève, qu'il nous console, qu'il nous parle. Le projet de Dieu pour nous. Quel est le projet de Dieu pour chacun de nous? Pour cela, nous allons lire dans Romains 8, versets 28 à 30. Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. La Bible nous dit au verset 29, il nous a connus. Il nous a connus. Dans la version La Parole Vivante, il est dit, il nous a appelés dans son plan d'amour. Nous avons été connus par Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous. En Jésus-Christ. Dieu a un projet éternel dans son dessein bienveillant. Il nous a connus d'avance, dit la Bible, avant même la création du monde. Dieu, dans son projet, nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Au point où, lors de la création, la Bible nous dit il nous a créés à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. Dieu, ce qu'il promet, il le réalise. Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils. C'est ce que nous dit le verset 29 que nous avons lu. Le péché est venu, nous le savons. Le péché, c'est quelque chose qui est là pour déshonorer l'être humain. Le péché abaisse l'être humain. Le péché rend quelqu'un méprisable. Nous devons le savoir. Le péché rend quelqu'un méprisable. C'est quelque chose qui dégrade. Si on ne s'en rend pas compte, mais quand on prend conscience de notre état devant Dieu, on voit que c'est quelque chose qui nous dégrade. Le péché est venu, il y a un mot qui rassemble tout ça, avilir l'homme, l'être humain, créé à l'image de Dieu. Il y a toujours cela, créé à l'image de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils pour une nouvelle création. Dans cette nouvelle création, la destinée reste toujours la même. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Ce n'est pas l'ennemi de nos âmes, ce n'est pas l'adversaire, comme on l'appelle, ni le péché qui pourrait empêcher Dieu de poursuivre son projet. Quel privilège, bien-aimé, que Dieu a voulu que toi, a voulu que vous, que nous, que tu sois semblable à son Fils Jésus-Christ. Devant ce projet de Dieu, nous devrions comprendre que le péché n'a pas de place dans notre vie. parce que nous sommes appelés à être semblables à Jésus-Christ. Ce projet est un projet auquel nous devrions tous adhérer. Dieu ne nous contraint pas. Je crois que nous pouvons le ressentir. Dieu ne nous contraint pas. Même lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, il ne nous contraint pas. Dieu nous appelle, simplement. Dieu nous interpelle. Il veut que nous puissions entrer dans ce projet. Dieu nous a créés pour un but. Et à cause du péché, nous pouvons manquer le but pour lequel Dieu nous a créés. Si nous continuons à vivre comme si on était son propre chef, alors que Christ est venu pour nous arracher de ce mal, le péché. Si le Christ ne devient pas notre centre de vie, si le Christ ne devient pas le modèle auquel on devrait s'identifier, on est à côté du projet de Dieu. On manque le but de notre existence. Dieu nous enseigne que par sa grâce, comme nous l'a rappelé le verset 29, nous avons été appelés à être ainsi. Ceux qu'il a connus d'avance, dit le verset 29, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Ne manquez pas, bien-aimés, ne manquez pas votre destinée. Ne manquez pas le but de votre existence. Parce que Jésus-Christ est venu vers nous et que nous avons compris que notre existence n'est plus en dehors de Christ. Notre existence n'est plus en dehors de Christ. Nous ne vivons plus pour nous, mais pour le Christ mort et ressuscité pour nous. Et que c'est le seul sens de notre existence. Ne passez pas à côté du but. Être semblable au Christ Jésus. Nous n'avons pas été créés au hasard. Dieu ne fait rien au hasard, mais créé pour un but. Si donc, dans le projet Dieu, il a voulu, avant même notre création, que nous puissions ressembler à Christ et que rien ne pouvait empêcher Dieu d'accomplir ce projet, quel est le projet qu'il a? Quel est le dessein qu'il a pendant que nous sommes sur la terre? Vous savez, particulièrement nous qui avons accepté le Christ, nous qui avons accepté de nous identifier au Christ, par exemple, on peut se demander à quel moment je me suis identifié à Christ. Quand on vient au Seigneur, qu'on réalise qu'on est pécheur, qu'on se convertit, il y a le baptême. Christ, le modèle auquel on devrait s'identifier, comme par le baptême. Le baptême. Jésus-Christ, lui, notre modèle, a été baptisé. Il est entré et sorti de l'eau. Nous savons, c'est le principe du baptême pour nous. Entrer et sortir. Que signifie le baptême? Nous sommes unis dans sa mort et dans sa résurrection. Le sens spirituel, c'est notre identification avec Christ. Le baptême signifie mourir et ressusciter. Nous sommes unis en Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Nous faisons un avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Il faut maintenant mener une vie nouvelle, une nouveauté de vie, pour vivre en nouveauté de vie et libre en Jésus-Christ. Donc, nous devons souligner la mort, nous devons souligner la résurrection, car ces deux éléments doivent être les éléments qui vont marquer toute notre vie. Vous devez toujours vous comporter dans cet esprit de la mort et de la résurrection, devant le péché. Devant le péché, agissez comme quelqu'un qui est mort, donc ne péchez plus. Quelqu'un qui est ressuscité et qui ne peut plus mener une ancienne vie, mais une nouveauté de vie. Donc la mort et la résurrection sont deux choses essentielles dans la signification du baptême. Celui qui est baptisé, il faut qu'il mette de côté le péché. C'est ce que l'on appelle la nouveauté de vie. Sa vieille nature a été crucifiée avec Christ. Nous qui avons accepté de nous identifier au Christ et d'entrer dans le projet de Dieu, c'est un projet éternel. Quel est son projet temporel? Quelle est notre destinée temporaire? C'est-à-dire qui ne dure que pour un temps. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Et dit, nous lisons, et c'est l'apôtre Paul qui parle ici, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. La Bible nous montre que Dieu créateur de tout ce qui existe, que beaucoup d'êtres humains ne l'ont pas compris. Pourquoi? Car toute adoration doit être adressée à Dieu seul, en Jésus-Christ. Ici, nous qui avons saisi la compréhension de ce salut, il nous a dit, vous vous êtes détourné des idoles. Vous qui êtes convertis, vous vous êtes détourné des idoles. Pour quelle raison? Pour arriver à quoi? Le texte nous dit, pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà, pour nous, ce que nous avons comme destinée temporaire. Nous sommes là pour servir le Dieu vivant et vrai. Parce qu'il y a de faux dieux, tout simplement. Parce qu'il y a de faux dieux. Vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est parce qu'il y a d'autres choses qu'on adore. Et nous savons tous tout ce qu'on peut adorer. On dit aux gens, ce qui compte, c'est votre sincérité. Quoi que vous puissiez croire, nous disons, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais le salut ne vient que par Jésus-Christ. Il faut que cela soit clair pour nous. L'évangile est le seul moyen du salut. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous vous êtes convertis, c'est-à-dire vous avez décidé de ne plus adorer les créatures. Parce qu'il n'y a que Dieu, le Créateur, qui doit être adoré, servir le Dieu vivant et vrai. Pendant que nous sommes sur la terre, c'est là notre destinée temporaire. Nous connaissons le texte d'Éphésiens 2, verset 8 à 10, nous lisons, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Premièrement, comprenons que de la même manière, pour notre destinée éternelle, Dieu nous a préparés pour être semblables à Jésus-Christ. Donc de la même manière, pour notre destinée temporaire, Dieu nous a déjà préparés pour les œuvres que nous devons pratiquer. Quand Dieu nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous allons faire quoi que ce soit, sinon nous allons nous en glorifier. Mais Dieu, avant même de nous sauver, il avait déjà préparé d'avance les œuvres que nous devrions accomplir ou pratiquer. Et je vous invite, si vous n'étiez pas là, de revoir les prédications déjà du pasteur au mois de février. Je vous donne la date, 13, où la question était posée, comment savoir que nous avons été créés pour des œuvres bonnes? Vous pouvez les réécouter pour compléter ce sujet. Donc, chacun de nous, on a un don. On nous le dit tout le temps. Depuis qu'on commence à étudier la Bible, on dit nous avons un don. Il y en a qui ont deux, il y en a qui ont trois, peut-être plus, par la grâce de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous donner d'accomplir, nous demander, pardon, d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance par notre propre force. Car ce qu'il veut que nous fassions, il nous donne le moyen de le faire. Personne ne peut servir Dieu par ses propres forces. C'est pour cela, lorsque Jésus devait monter au ciel, il dit à ses disciples, « Vous ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de l'Esprit. Alors vous serez mes témoins. » Dieu nous demande d'être des serviteurs, des servants, mais il nous donne son Esprit. Alors, vous serez mes témoins. Dieu prévoit un équipement pour nous. Et cela pour nous rendre capables de faire face à nos responsabilités, de pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il nous donne un équipement. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour nous conduire, comme Jésus. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, nous lisons « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces que de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc ce don, ce n'est pas pour moi, pas pour vous-même, mais c'est pour les autres. C'est pour les autres. Nous avons reçu un esprit de force, de sagesse, pas de timidité, pour servir Dieu. Que le Seigneur nous trouve dignes de sa faveur ou de sa grâce. Et que la vocation qui vous est adressée, qui t'est adressée, que Dieu nous trouve fort, fort pour le servir avec cette grâce qu'il nous a donnée. Nous sommes forts, mais que par Jésus-Christ. Nous devons sainteté à l'Éternel. Selon Exode 28, verset 36, qui ne sera pas affiché, nous devons sainteté à l'Éternel, c'est-à-dire consacrer à l'Éternel. Appelé à être consacré au service. Nous qui sommes sauvés, nous ne nous appartenons plus. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Nous sommes donc consacrés au Christ. Nous sommes donc des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ. Nous devons sainteté à Dieu. Nous sommes donc consacrés au Seigneur. Dans l'Église, il n'y a que des serviteurs, pas de grade. Pas de grâce. La mission du Christ, c'est pour notre salut. Comme Dieu nous a créés pour être semblables à Christ, et qu'il a recréé en Christ pour le servir, il nous a recréé en Christ pour le servir, alors quelle est notre mission principale? La logique spirituelle pour nous, c'est de pouvoir servir au salut des autres. Quand nous venons à l'Église, nous recevons encouragement, exhortation, protection, délivrance, guérison, consolation et la force pour pouvoir témoigner où que Dieu nous a placés. Ça commence au collège, au lycée, au travail, le voisin et autres, et là où Dieu nous place. Oui. Voilà ce que nous recevons quand nous sommes à l'Église. Où que Dieu nous a placés, nous pouvons servir Dieu. Dieu nous a appelés, mais c'est pour le servir. Le servir. Nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens 5, 14. Il est dit que l'amour de Christ nous presse. Pourquoi? Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et verset 15, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous sommes sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent par lui, si on peut dire, ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous devons comprendre notre destinée, que Dieu a voulu nous identifier à son Fils, et pour que nous puissions nous comporter comme le Fils de Dieu. C'est pour réconcilier les hommes avec notre Dieu. Là où nous pouvons témoigner, des fois ce n'est pas facile, même des fois à la maison, notre propre maison, nous avons du mal à dire quelque chose, donc, mais Dieu nous a placés là, par notre témoignage. Dieu nous a placés là où nous sommes pour réconcilier les hommes avec lui. Nous avons pour cela la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Parce que personne ne peut aller vers Dieu par ses propres efforts. C'est simplement en acceptant ce que Dieu a déjà accompli en Christ Jésus. Bien-aimés, c'est là notre vocation. Nous sommes réconciliés avec Dieu et dans notre destinée temporaire, nous sommes chargés de réconcilier les hommes avec Dieu au nom de Jésus-Christ et par le soutien de son Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse.